Chapitre 10.
Tu sais le moment où je me suis vraiment dit que c'était toi le bon ? Quand tu racontais le coup des hortensias qui trouvent le coupable. Et puis quand l'autre parlait de ton enfance. C'est lui qui récitait les souvenirs, mais c'est toi qui les revivais dans tes yeux. Ton père qui taillait les arbres en Mickey, les hot dogs, le grand 8. Qu'est-ce que je suis heureuse, Martin. Confiture ?
C'est beau de voir une femme renaître. Elle est transformée par mon histoire, par le rôle qu'elle a joué, par la confiance qu'elle a eu raison de me garder envers et contre tous. Je n'objecte rien. Le rapport d'enquête est resté dans ma poche. Je la regarde devenir presque jolie, parce que pour la première fois de sa vie, elle ne s'est pas fait avoir. Et les plis de sa bouche ont disparu sous le sourire, l'enthousiasme et la taille des tartines qu'elle partage avec moi. Son fils nous observe, perplexe. On s'est invité dans son goûter sur la table de la cuisine. Je me suis découvert une fin d'ogre et on a déjà descendu une baguette, alternant beurre, marmelade, rillettes et Nutella. Qu'importe les doutes et les angoisses que j'ai apportées dans cet appartement sans homme au deuxième étage d'une tour minable, ce soir j'ai décidé d'être celui que Muriel imagine.
Raconte ton métier à Sébastien.
J'aime bien ce tutoiement qui est venu tout seul, depuis qu'elle est sûre de moi. Je raconte à Sébastien comment j'ai fait pousser des tomates dans le désert sans une goutte d'eau, uniquement en leur mettant de la musique. J'avais transposé en fréquence sonore le signal quantique émis par leurs protéines et je les leur balançais dans les amplis, sous forme d'un rap végétal agissant comme une hormone de croissance. Il ouvre des yeux ronds au-dessus de son bol de chocolat qui refroidit. C'est un petit bonhomme entre l'enfance et l'acné, avec un duvet noir qui relie ses sourcils et une voix de gamin encore intacte.
« Je l'enregistre », me confie Muriel avec une détresse souriante, dès qu'il est sorti de la cuisine pour aller jouer sur sa console. Je lui prends sa voix tout le temps sans lui dire « je veux la garder ». Tous ses copains ont déjà mué, c'est l'horreur.
Il a l'air sympa.
Il est hyper doué, il est nul en classe, ça l'emmerde. Mais au test de QI, c'est le premier. Résultat, il se fait cogner par tout le monde et il régresse. Je sais pas ce qu'il va devenir. J'ai pas les moyens de le changer d'école.
Je hoche la tête, gravement. C'est bon, cette vie autour de moi, cette vie concrète, épaisse, fermée. Ce mélange de petits drames insignifiants et d'usures quotidiennes, sans horizon ni fausses promesses. Une vie de trimestre et de fin de mois, de solitude encerclée, de kilomètres en vase clos et d'attente aux aéroports, de prise en charge et de retour à vide. Une vie d'heures volées au travail pour les consacrer aux enfants, un sacrifice sans issue. Une cause perdue d'avance. La fille est arrivée. 17 ans, longue et belle, décalée, l'air ailleurs mais le regard franc. Indifférente et polie. Elle s'appelle Morgane, elle sent l'ammoniac, la permanente, le lilas de synthèse. Apprentie coiffeuse. Elle avale un jus de pomme adossé au frigo, nous laisse finir notre goûter avec un ciao, va dans sa chambre écouter de la techno. Muriel me regarde manger, la joue dans la main.
Voilà, c'est ma vie,
commente-t-elle sobrement.
Je les adore, mais tu m'as fait un sale coup. Depuis hier, je n'arrête pas de me demander comment je réagirais si un soir en rentrant je trouvais une autre femme à ma place.
Il y a toujours un moyen de prouver qui on est, Muriel.
Je lui souhaite bon courage et je me barre, ouais. Elle pouffe de rire en mordant ses lèvres. Agite la main pour annuler le blasphème, finit son thé en grimaçant. Je n'ai jamais le temps de m'arrêter dans ma vie, et je crois que ça vaut mieux. Un petit Saint-Zano ?
Sans transition, on repousse nos tasses et on passe à l'apéritif. Elle me raconte son enfance, son mariage, son divorce. Rien n'a d'intérêt, tout est prévisible depuis le départ, mais la rage de vouloir s'en sortir toute seule, d'épargner à ses enfants ce qu'elle a connu, l'énergie dépensée en pure perte contre la fatalité donne à tout ce gâchis ordinaire la dimension d'une tragédie grecque. L'heure tourne et son gamin vient demander à quelle heure on bouffe. Elle lui répond de se débrouiller, ce soir elle fait relâche. Je propose de les emmener au restaurant. Il me regarde comme un martien. Morgane téléphone à l'oreille, vient nous annoncer qu'elle va dormir chez Virginie. Sa mère tend la main. Elle lui passe l'appareil en soupirant, tourne les talons. Muriel vérifie l'alibi, raccroche, hausse les épaules en me disant que de toute façon elle prend la pilule depuis 6 mois et à quoi bon se coucher tôt pour être en forme dans un boulot qu'on n'aime pas. « Choisis dans les surgelés », dit-elle à son fils en finissant son 3e Saint-Zanneau. Je demande quelle voix avait Rodney au téléphone. « Normal. Il t'apprécie beaucoup en tout cas. Il m'a demandé 20 fois comment tu réagissais, si tu tenais le coup, ce que tu comptais faire avec ta femme. Tu l'as eu sur son portable ? » J'ai rappelé le numéro qui était mémorisé. « Tu vas faire quoi avec ta femme ? Avec les gens qui t'ont monté ce bateau ? » Je ne sais pas. De toute façon, elle laisse sa phrase en suspens dans son verre. Le début d'ivresse diminue l'euphorie, l'éloigne de mon histoire, la renfonce dans sa réalité d'où elle ne sortira plus, quand mon problème sera réglé. Demain, j'aurai l'épreuve de mon existence, je repartirai de mon côté faire ce que j'ai à faire, et pour elle, il n'y aura plus de neuf. Je peux suivre toutes les pensées sur son visage, entre les mèches inégales qui s'échappent des pinces. J'ai donné un grand coup de vent dans sa vie, un vent de folie, un vent d'absurde, et maintenant tout va rentrer dans l'ordre, en pire. Elle tend la main vers la bouteille et renverse son verre. Je m'écarte trop tard. Elle me dit qu'elle est désolée, m'indique la salle de bain, plonge la tête dans ses bras croisés. Je me retire par discrétion. Morgane est en train de se maquiller devant l'armoire à pharmacie, me dit d'entrer, je ne la dérange pas. Je vais ouvrir le robinet, tamponne les taches sur ma veste. Elle regarde la bande adhésive qui s'effiloche sur ma main droite. « Ça fait mal ?»« Non, ce n'est rien, ça se remet tout seul. » Elle dessine un trait avec son crayon à paupières, me conseille un cataplasme à la mie de pain et au gros sel. Mon père est avec une femme qui a des chevaux. Quand j'allais chez eux, je tombais tout le temps. Le gros sel, c'est béton pour les œdèmes. Je la remercie. Ça fait longtemps que vous connaissez maman ? Peut-être que Muriel leur a caché notre accident. Je réponds oui. Et c'est vrai qu'une part de moi aurait pu la connaître à 20 ans, vivre une existence semblable, fonder ce genre de famille. Nos départs se ressemblent. Vous avez l'air de lui faire du bien. Elle attaque son deuxième œil, me demande si on est juste amis. J'acquiesce en frottant le tissu au savon. Un téléphone sonne dans une autre pièce. C'est une femme super, vous savez. Mon père l'a cassé grave. Depuis, il n'y a plus que nous dans sa vie. Ça me gave qu'elle soit seule. Je me concentre sur les auréoles qui s'agrandissent. Elle repose son crayon à paupières, vient prendre un tube sur le lavabo. « Elle vous plaît pas ?» Je soutiens son regard tandis qu'elle dévisage mon silence. Il y a un vrai reproche dans ses yeux, une vraie admiration pour cette mère qu'elle a dû haïr avant de la comprendre. « Si, elle me plaît, mais... » Elle pince les lèvres sous mes points de suspension. Puis, avec un soupir, elle ôte son t-shirt, défait son jean. Les seins nus, elle va sortir du placard une robe qu'elle enfile, de dos. « Bonne soirée », dit-elle en se retournant sur le seuil, avec un sourire. Je reste figé au milieu du carrelage, bouleversé par ce geste, cette brusquerie dans la délicatesse, cette façon d'éveiller par son corps mon désir pour sa mère. « Martin !» Muriel m'appelle dans le claquement de la porte palière. Je la rejoins au salon. Elle est debout contre la bibliothèque, son téléphone à l'oreille. « Je vais lui dire merci. Embrasse Ginou, reposez-vous bien. » « C'était Robert, » fait-elle en coupant la communication. « Mon copain taxi qui m'a prêté sa voiture. Il vient de rentrer de vacances, il a appelé les flics. Ils ont retrouvé le camion qui nous a foutu dans la Seine, au fond d'une décharge, en Eure-et-Loire. Tu sais quoi ? On l'avait volé. » Elle se réjouit. Elle espère que ça va l'aider pour l'assurance et le retrait de permis d'avoir refusé la priorité à un camion volé. Je ne fais pas de commentaire. Je reste à contempler les vieux livres abîmés qui s'alignent sur les étagères. Quelque chose remue dans ma mémoire que j'essaie d'isoler. Un regret, un manque, une association d'idées. Je ne sais pas si le lien est avec les paroles de Muriel ou avec l'odeur de cave et de cuir moite qui imprègne la bibliothèque. L'héritage de mes parents, dit-elle en suivant mon regard. Toute l'histoire des religions sur Terre, depuis que l'homme a inventé Dieu pour se taper dessus. Des nids à poussière bourrés de microbes, mais j'arrive pas à les jeter. Ils y tenaient tellement. Ça me fait chier la mémoire. Elle débouche une bouteille de blanc, poursuit. Quand tu es revenu à toi, j'ai pensé que tu serais amnésique. Je me suis dit, quel bol. Sébastien nous apporte des poissons carrés, chapelures molles et fourrage tomate qu'on mange autour de la table basse en regardant les infos. Des inondations, des plans de paix, des attentats, du foot, une marée noire, la visite officielle du président américain, les ennuis de la reine d'Angleterre. Muriel râle à cause des bouchons, énumère les nuisances du mois, 3 chefs d'État, 12 manifs, la fermeture des voies sur berge. Ce n'est plus possible de rouler dans Paris. En plus, le maire a bétonné les couloirs de bus. Les taxis ne peuvent plus en sortir quand un camion de livraison les bloque. Je l'écoute d'une oreille distraite, approuve en mangeant. Tu penses à quoi, Martin? Tu as l'air embêté, là. Non, je me demandais pourquoi on était passé par la Seine. Je commence à me repérer dans Paris et ce n'était quand même pas très direct. Elle me sonde en fronçant les sourcils, l'air tendu. Je fais mine d'oublier ma phrase dans les prévisions météo. Je ne voudrais pas qu'elle croie que je l'accuse d'avoir fait un détour pour rallonger la course. Qu'est-ce que tu appelles « pas très direct » ? Rien, passer par la Seine pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle en partant de chez moi. De chez toi ? Rue de Duras ? Mais je t'ai pas chargé là-bas. Et tu m'as chargé où ? Elle attrape la télécommande, coupe le volume. À Courbevoie.
Où ça ?
Courbevoie, répète-t-elle d'un ton d'évidence. Boulevard Saint-Denis.
Je tombe des nues. Et qu'est-ce que je faisais là-bas ?
D'un signe, elle m'indique que c'est à moi de le savoir. Je me creuse en vain.
Tu es sûr ?
Elle confirme, radoucie, me demande si c'est le premier souvenir qui me manque.
Je reste vague.
On prend M6, décide son fils en récupérant la télécommande. Il zappe, remet le son. Elle lui rappelle qu'il a école à 8h. Il s'installe entre nous sur le canapé jaune et on regarde une bande de filles qui apprennent à chanter en vase clos et se calomnient mutuellement devant la caméra, chacune s'efforçant de faire éliminer les autres par les téléspectateurs pour devenir une star de la chanson. Le gamin dévore des yeux cette belle aventure, vibrant pour une beurette androgyne et traitant les autres de pouf. Quand tombe le verdict et que sa candidate en pleurs est virée par le scrutin téléphonique, il jette la télécommande et sort du salon. Je reste avec Muriel, un coussin vide entre nous. J'ai passé l'émission à refaire le trajet dans ma tête. On arrive rue de Duras, je me fais soigner à la pharmacie, je rejoins Lise devant France Télécom, on s'installe au café avec nos valises, je découvre qu'il manque l'ordinateur, je cours après le taxi de Muriel en criant pour qu'il s'arrête. C'est vrai que je ne visualise pas le paysage à ce moment-là. Mais comment me serais-je retrouvé à Courbevoie ?
Ça t'ennuie d'aller lui raconter une histoire ?
Je la regarde, étonnée. Il est un peu vieux, je sais, mais depuis son père, on ne lui a plus...
Laisse tomber, se ravise-t-elle en changeant de chaîne. C'est trop tard.
Je me lève, pose une main sur son épaule pour l'empêcher de me retenir. Sébastien est allongé sur le ventre, les mollets à la verticale, plongé dans un manga. Des monstres et des joueurs de foot tapissent les murs. Il me dit que je peux m'asseoir et bouquiner, ça ne le dérange pas. Je m'approche d'un petit aquarium posé sur une étagère, avec 2 poissons pelés en suspension et 3 pauvres cailloux dans un décor d'algues.
Tiens, tu as des aclias.
Il lève un œil, me demande ce que c'est.
Une algue bisexuée. Elle donne des couleurs magnifiques aux poissons quand elle se reproduit.
Elle est nulle alors. T'as vu leur bronzage ?
C'est parce que les filaments ne se touchent pas.
Chez les aclias, la puberté ne se déclenche qu'au contact de l'autre sexe. Les tiennes vont rester enfants toute leur vie si tu les laisses comme ça.
Je plonge les doigts dans l'eau sale, rapproche les cailloux pour coller entre eux les brins verts pâles. Il a quitté son lit, m'écoute d'un air curieux en fixant le bocal. Tant qu'elles ne sont pas en présence, elles n'ont pas d'identité. Mais ensuite, elles peuvent se modifier au gré des rencontres, devenir mâles ou femelles en fonction de l'attirance. Oh, elles sont homo, mes algues ? Transsexuelles. L'avantage qu'elles ont sur l'espèce humaine, c'est qu'elles peuvent changer de sexe autant de fois qu'elles veulent. Ça dépend de qui elles sont amoureuses. Je croyais qu'elles étaient mortes. Elles attendaient que tu t'intéresses à elles. Sur le seuil, Muriel nous regarde penchée sur l'aquarium. Elle a les larmes aux yeux. Il se retourne. Elle se retire. Il regagne son lit, me demande comment j'ai décidé de faire ce métier. Les feuilles bleues. Les quoi ? J'ai sursauté juste après lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, ni à quoi renvoient ces mots. Il n'y a pas de feuilles bleues dans la nature. Sauf chez certains conifères, mais on appelle ça des aiguilles. « Tu le savais, à mon âge ?» relance-t-il. « Oui, je crois. » « T'as du bol. Moi, je sais pas ce que je veux faire. »« De toute façon, tout est bouché, » se rassure-t-il. J'esquisse un sourire de compréhension, solidaire, m'approche du lit, hésite. J'ignore si ça s'embrasse encore, un garçon de cet âge. Il me tend la main, je la serre, et sort de la chambre en répétant les deux mots dans ma tête. Feuille bleue. La sonorité liquide fait naître des images floues, des bribes de voix qui s'en mêlent, tournent court. Je retrouve Muriel au salon. Elle est assise par terre, devant la télé éteinte. Ça avait l'air de lui plaire. Je ne sais pas ce que tu lui racontais. Mais... N'importe quoi, c'est le résultat qui compte. Les algues de son aquarium sont des moisissures quelconques, mais dorénavant, il les regardera comme des couples en puissance, des ados qui se cherchent. Ma franchise la choque, ou ma délicatesse. Tu te forces pour moi ou tu es comme ça tout le temps ? Je réponds d'un soupir indécis. Tu as jamais eu d'enfant ? Non. Elle se relève en disant que c'est dommage pour eux. Elle regarde l'heure. Tu sais où dormir ? Non. Le canapé ? Merci. Elle va dans sa chambre, revient avec un oreiller et une couverture. Je n'ai pas bougé. Ça ne va pas, Martin ? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Moi aussi. On se regarde, désarmé. Elle dépose l'oreiller, étale la couverture. Elle s'approche de moi. Je la prends dans mes bras et on essaie d'oublier le reste.